pour comprendre ce qui lui arrivait, mais la haine était intacte. Les Portugais, dilapidant la moitié de leur budget national pour une guerre coloniale qui ne motivait personne, un plan de paix avait été établi entre les différents mouvements de libération de l'Angola qui s'étaient empressés de se torcher avec. Les milices du MPLA ratissaient les rues de Luanda et exécutaient tout contre-révolutionnaire ou présumé, déchaînant l'inimitié entre frères, parents ou voisins, traités de bourgeois, de capitalistes ou de chiens d'impérialistes, des gens tous plus démunis les uns que les autres, mais sommés d'obéir au discours marxiste des libérateurs assassins. Juan n'avait pas d'autre choix, tuer ou se faire tuer. Le MPLA marxiste recevait l'appui des Cubains et de mercenaires, enrôlant de force drogués, délinquants ou sans travail des quartiers déshérités, jeunes ignorants dès lors encadrés et endoctrinés, soldats du peuple qui allaient faire plus de morts que 15 ans de guerre coloniale. Une guerre du pétrole et du diamant, menée par des chefs aux discours venimeux appris à La Havane, Moscou, Pékin, justifiant les découpes à la machette, les appels à dénonciation, le carnage. 700 000 civils angolais tués ou mutilés, 2 millions de réfugiés, un pays de famine où l'espérance de vie plafonnait à 40 ans. Enfant soldat, Juan avait à peine 12 ans lorsque son pied avait sauté sur une mine antipersonnelle, pré-épitaphe de ce qu'il avait toujours considéré comme une vie de merde. Il n'était qu'un animal blessé de plus à fuir la guerre et dont tout le monde se fichait. Survivant à l'amputation, Juan avait d'abord rejoint les milliers de réfugiés Mbukushu installés dans les environs d'Etosha avant de gagner Rundu, la ville frontière de la bande de Caprivi. La prothèse de la Croix-Rouge le rendait plus mobile que la paire de béquilles récupérées sur la route de l'exil, mais qui voulait d'un unijambiste? Juan vivait d'expédients, vendant ou volant ce qu'il trouvait, baisait de la même manière ou quand il était en fond, partageait la misère d'autres désœuvrés jusqu'à sa rencontre avec celui qu'on appelait le Bass. L'Afrikaner faisait copain-copain avec les jeunes des villages alentours, lui faisait de la retape pour son compte dans les bars de Rundu. Les rebuts et les travailleurs fauchés, comme Xazé ou Virinao, le prenaient pour l'un des leurs sous prétexte qu'il leur offrait une bière. Des gars que le Bass embauchait à la journée ou à la semaine, selon ce qu'on leur demandait. Les billets qui bourraient les poches de Juan faisaient des envieux, des légendes auxquelles il était facile de croire. On se méfiait moins d'un unijambiste, et on avait tort. Une enfance massacrée, des parents morts sur le chemin de l'exil, enrôlés de force, puis amputés, Juan était devenu un animal à sang-froid. Son rire même avait de quoi inquiéter. Tout de dents invalides et la langue fourchue. Un foutu baratineur à la peau grêlée qui distribuait des couleuvres aux naïfs. Et Virinao parlait trop.
« Je vous promets que j'ai rien dit, à personne »
jura-t-il. « Il ment, railla Juan. Cet empaffé ne donnait plus de nouvelles depuis la mort du Koï. Il a même quitté le foyer en catastrophe et coupé son téléphone. »«
C'est vraiment une pourriture de dire ça !»
protesta Virinao. Tu croyais quoi, qu'en faisant l'autruche, on te retrouverait pas?
J'avais peur des hommes lions,
expliqua le Himba.
C'est pour ça que je restais terré chez moi.
Du baratin, ouais. Une fille te cherchait dans les bars. Pretty, ça te dit quelque chose? C'est elle qui t'a abordé au cimetière.
Mens pas, on était là,
menaça Juan.
Une copine de collège,
plaida l'accusé.
Je ne sais pas ce qu'elle me voulait, je le jure.
Tu t'enfuis en voyant des copines de collège, toi. Le Bass les écoutait se disputer. De son vrai nom, Joost Duplessis, un colosse aux avant-bras tatoués qui avait embarqué le fugitif à l'arrière d'un SUV aux plaques trafiquées. Virinao se tenait maintenant dans le coin d'un hangar qui puait la ménagerie, tremblant de peur sur une chaise bancale où il l'avait attaché. Des dizaines d'animaux en cage attendaient d'être expédiés, dont une magnifique tarentule qui, posée à ses côtés dans son bocal de verre, faisait se dresser ses poils.
Réponds-moi, fit Joost avec autorité. Pourquoi la fille te cherche?
J'en sais rien,
glapit Virinao devant le visage tout en mâchoire du Bass.
Un type l'accompagnait, un ranger en civil.
Hein?
Ne joue pas à l'imbécile avec moi.
Je ne sais pas, c'est la vérité.